11. Les commensaux. Fourbes travelots, pharaons beaux parleurs, maîtres arnaqueurs qui grugent d'autres gredins. Quand vous partez faire un coup sur le soir, prenez vos tuyaux et vérifiez-les, qu'il n'y ait pas de flics en civil embusqués dans la ville où vous voulez faucher. François Villon. Je dormis assez peu et assez mal au cours de ma dernière nuit à Lindinas. J'avais un paquet de détails à régler avant ma petite excursion à Vers. Tout d'abord, je devais avertir Cesarino que je lui faisais faux bond. Il s'agissait de lui en suggérer assez sans lui en dire trop. Comme c'était un garçon intelligent, ce ne fut pas trop difficile. Je lui confiai que ma présence dans l'ambassade était motivée par de secrètes instructions et qu'on venait de me faire savoir qu'il fallait les exécuter. Comprenant très bien de quoi il s'agissait, il ne tint pas à en apprendre davantage et se contenta de me souhaiter bonne chance. Au cas où l'on se serait inquiété de ma disparition dans l'entourage du duc, il fut convenu de raconter que j'avais été chargé de recouvrer des dettes auprès de débiteurs bromalois pour financer le probable surcoût de la campagne navale. Le neveu du podestat fut plus surpris quand je lui demandai si, par hasard, il ne lui restait pas une lettre de marque qu'il aurait pu me confier. Bien que je ne lui en ai pas dit davantage, il saisit parfaitement que mes grenouillages allaient éclabousser la haute noblesse. Manifestement, ça ne lui chantait guère de s'impliquer trop personnellement. Il s'excusa en me rappelant que nos lettres de marque avaient été remises à la chancellerie peu après notre arrivée à Caruel. Tout au plus me proposa-t-il de m'écrire une lettre de recommandation, si mollement qu'il était manifeste qu'il n'en aurait rien fait. Je le tirai d'embarras en observant que, rédigé par un patrice et non un sénateur, sa babillarde aurait été dénuée de caractère officiel. Elle ne m'aurait servi à rien. Chez les grands personnages auprès desquels j'allais solliciter une audience, il valait mieux miser sur la bonne mine et sur le culot que sur un piston de seconde main. Cesarino me fut reconnaissant de ne pas insister. Il va sans dire que je me gardais de solliciter Dilettino. Il était plus prudent que le sénateur Schernitore croit que je partais pour Vekinsberg avec l'ost ducal. Il me fallut aussi régler quelques détails pratiques. Je décidai de voyager léger, histoire d'être crédible sous ma couverture d'émissaire officieux, et surtout pour pouvoir me patiner en vitesse quand le vin aurait été tiré. J'abandonnai la demi-armure portée la veille dans les combats, trop martial et trop encombrant. Je me contentais de mon buffle, d'un costume de voyage et de mon déguisement de cour au cas où j'aurais besoin de paraître. Outre l'épée et la dague, je serai muni de deux couteaux de secours. Une de mes aiguillettes était en fait un lacet en fil d'acier, maquillé par un tressage de cordonnet de soie. J'étais toutefois conscient que pour faire usage de ces outils, il me faudrait être intime avec ma conquête. Non que j'aie douté de mon charme, ma gueule marquée témoignait que j'étais homme d'expérience, mais enfin il fallait quand même prévoir l'éventualité du râteau et du congédiement. En cas de rebuffade, je pourrais toujours me brosser avec mes lames et ma passementerie. Il était donc nécessaire de prévoir une autre approche, si les circonstances me poussaient à subjuguer de loin. Pour le double solde de Jezoufal, le moyen s'imposait de lui-même. Une solide arbalète à crannequin, prélevée dans le fourniment de notre escorte. En revanche, l'accessoire manquait plutôt de discrétion, surtout dans le bagage d'un émissaire officieux. Il paraissait même carrément incongru et assez plébéien dans le trousseau du grand argentier de l'ambassade. On n'allait pas le louper, le diplomate tchoudalien, avec le long arbrié calé dans le dos et l'arc de fer lui dessinant une auréole. C'était vraiment la faute de goût rédhibitoire. Pour parer au problème, je mijotais un stratagème. La ficelle était un peu grosse, mais je misais sur la courtoisie de la noblesse locale pour que la combine marche. À part ces petits préparatifs, la nuit fut courte car agitée. Le campement connaissait l'effervescence des veilles de départ. Il y eut aussi deux accrochages assez violents qui répandirent l'alarme. Au sein même de l'armée ducale, une poignée d'imbéciles du banc de Kerlund attaquèrent les mercenaires ouromans du Grand Bâtard pour leur faire payer la chute de Vikingsberg. C'était idiot, parce que les brutes engagées par Fitzganlon n'appartenaient pas aux Hartclyde ni à leurs alliés. Et c'était d'autant plus idiot que les barbares réagirent avec brutalité et massacrèrent les crétins. Peu après, ce furent les quartiers de Traval qui furent assaillis par une bande de chevaliers de Kimark. Les énergumènes, ayant eu leur tente pillée au moment de l'assaut ordonné par le duc, ils cherchaient à prendre leur revanche en dépit de la trêve. Ces échauffourées n'eurent guère de conséquences. Pour autant, réveillez-vous en pleine nuit sous une tente environnée de clameurs féroces et d'appels aux armes, précipitez-vous en chemise, l'épée au poing au milieu d'un campement aux 100 coups, dans l'obscurité traversée de cris et de bousculades, et vous conviendrez qu'au petit jour, on n'a pas forcément le teint frais quand l'heure est venue de hisser le baluchon. Au matin, lesté de mon barda, je partis donc présenter mes hommages à la baronne de Brégor. Je restais sur mes gardes. Je ne pouvais pas exclure que le contrat dont on m'avait chargé ne soit qu'un appât destiné à me faire donner dans un coupe-gorge. Certes, il y avait foule, mais après tout, ces dames m'avaient chargé de dévisser vos macelles en public. Et compte tenu des escarmouches qui avaient égayé la nuit, un coup malheureux infligé au grand argentier de l'ambassade chaudalienne, au milieu de la cohue, aurait pu passer, si regrettable fut-il, pour un incident parmi d'autres. Car c'était un drôle de bazar, le déménagement du camp de Lindinas. Le départ de Carwell m'avait déjà effaré par sa désorganisation et ses embouteillages. Mais l'évacuation de ce matin-là me parut être un foutoir trois fois pire. On démontait les pavillons, on enroulait les toiles, on remballait les piquets, destriers et animaux de bas se mélangeaient, de beaux meubles traînaient dans l'herbe, des tapisseries étaient roulées sur des pics. Des sacs de charbon de bois s'entassaient contre des coffres historiés. Tout le monde s'activait dans tous les sens, gens de guerre, valets, pages, souillons et dames. On se prenait les pieds dans des brancards de charrettes, des rouleaux de cordes, des tréteaux abandonnés. Toute cette débâcle sentait la fin de fête ratée, le marché aux chevaux et la gueule de bois seigneuriale. Je faillis m'égarer dans cette énorme pétaudière. Les tentes ayant été démontées, il ne restait du campement qu'une forêt de poteaux qui s'abattaient l'un après l'autre. Plus d'allées ni de délimitations, juste un champ boueux que bêtes et hommes arpentaient avec une frénésie de fourmilière. D'un seul coup, on avait rasé le décor de foire. Je ne savais plus trop où porter mes pas. Finalement, un peu par hasard, je finis par aviser une splendide litière, déjà prête au départ, que flanquait un gros escadron d'hommes d'armes et tout un train de chevaux de somme. Quelques pennons avaient pour armoirie un pont flanqué de tours. Ce blason me disait quelque chose. Des sergents vindicatifs me barrèrent la route sitôt que je fis mine d'approcher. Avec mon costume de trimardeur et mon arbalète, on m'avait pris pour un simple soudard et on faillit m'envoyer paître. Fort heureusement, un officier balafré me reconnut et écarta ses hommes. « Vous arrivez à point, seigneur Benvenuto, » me lança-t-il avec plus d'impatience que de politesse. « Madame n'attend plus que vous. » Et m'ayant rapidement toisé de la tête aux pieds, il ajouta sur un ton plaisant « Très réussi ce déguisement. Vous faites un parfait goujat. Mes gens étaient bien prêts de vous frotter les épaules. » Le cerbère me mena jusqu'à la litière. Aussi haut et luxueux qu'un baldaquin, le véhicule était déjà attelé à deux solides chevaux de charge. Une main délicate souleva la portière de velours à mon approche. À l'intérieur, un couple de dames se tenait mollement étendu sur une couche garnie de coussins brodés et de draps d'or cramoisi. La baronne de Brégor, proche à me toucher, m'adressa la parole avec un parfait naturel, tout en jouant de l'équivoque lascive qu'il y avait à la découvrir allongée dans son plumard de luxe. Sa jolie nièce lui tenait compagnie, et l'indolence de ses allumeuses de haute naissance suggérait les prémices de volupté défendue. Cependant, seule la baronne daigna m'accorder son attention. Sa demoiselle de compagnie causait par l'autre portière avec un blondin qui me disputait la vedette. « Ah, seigneur Benvenuto, vous arrivez à point !» m'accueillit la belle Erambourg. « Nous étions sur le départ. »«
Vous me manquez déjà, baronne. »«
Voyez-vous cela ?» moqua la dame. « Un manieur d'argent qui galantise. Vous voici d'ailleurs dans un bel équipage pour percer les cœurs. J'ai sur ce sujet de hautes ambitions, qui rejoignent les vôtres. Votre instrument est quand même très voyant. Plus de discrétion serait de mise pour approcher l'objet de vos convoitises. Ne vous en faites pas, c'est juste un accessoire de voyage. Arrivé à bon port, je saurai me déguiser en agneau afin de mieux faire la bête. Mais encore faut-il que je trouve mon chemin. Vous m'aviez parlé d'un cicérone pour me faire entrer en contrebande. Vous avez déniché cet oiseau rare ? Naturellement. Il est même arrivé avant vous. Mais avant de vous le présenter, rappelez-vous bien nos conventions. Le chevalier nous rend un si grand service qu'il serait désobligeant de l'ennuyer avec le détail de notre entreprise. Cela va sans dire. Je garderai les arguments probants pour la personne concernée. Votre tact vous honore. Eh bien, plus rien ne s'oppose à ce que vous soyez mis en présence l'un de l'autre. Se tournant vers sa compagne, la Brégor l'interpella sur un ton un peu piquant. « Héloïse, cessez donc de vous accaparer le chevalier et laissez-nous jouir un peu de sa conversation. Adressez-le-moi. Je dois lui présenter le grand argentier. » Sitôt sollicité, le causeur de l'autre côté de la litière fit le tour de l'attelage. Je m'attendis à rencontrer un parfait inconnu. Le titre de chevalier me fit juste redouter le raseur. Je craignais de devoir me farcir un preux collet monté comme Bérard d'Estriff, ou un puant à la sauce ollier de l'Aulnay. Pour se retrouver la dupe d'une intrigante comme la baronne de Brégor, le spécimen devait plutôt appartenir à la seconde espèce. C'est du moins ce que je pressentais, et je me résignais d'avance. Or, je me trompais du tout au tout. Le gaillard qui s'avança vers moi ne m'était pas inconnu, même si je ne le reconnus pas complètement sur l'instant. C'était un homme jeune, probablement du même âge que Cesarino, mais nettement plus robuste. À en juger d'après son visage un peu tuméfié, il avait participé au tournoi. Mais je ne pus l'identifier à ses armes, car il n'était vêtu que d'un costume de voyage. On ne l'avait toutefois pas assez tabassé pour le rendre méconnaissable. J'avais déjà vu cette trombine juvénile, un peu niaise, qui me considérait avec surprise. C'était le nigo égaré qui, 3 jours plus tôt, m'avait bousculé dans la foule. À l'évidence, le maroufle m'avait également remis. Il me dévisageait d'un air un peu stupide, aussi étonné que moi par la coïncidence. Je pris sur moi pour ne pas l'aborder en lui jetant à la figure quelques grossièretés affectueuses. J'allais avoir besoin de cette courge et je doutais de son sens de l'humour. « Chevalier, voici le grand argentier Benvenuto Gesufal, » s'entremit gracieusement la baronne. « Seigneur Benvenuto, j'ai le plaisir de vous présenter le chevalier Ivorin de Kéan. » Cette fois, ce fut moi qui en restais comme 2 ronds de flanc. Je ne l'avais pas remis dans son habit pour la route, mais ce niquedouille, c'était Kéan, le roublard dont le double jeu avait grugé le duc au premier jour des combats, le cogneur qui avait capturé Fitzganlon, le dur à cuire qui n'avait pas flanché au seuil de l'Indinas et qui nous avait repoussés quand nous avions presque pris la place. Avec son air franc et un peu bécasso, il n'avait vraiment pas la gueule de l'emploi. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences. J'avais moi-même une drôle de dégaine pour un grand argentier. Je me demandais d'ailleurs qui il avait reconnu chez moi, le passant qui lui avait marché sur les pieds ou le spadassin qui avait planté vos macelles. J'espérais qu'il n'avait identifié que le butor. Quoique la barbute ne voile que partiellement le visage, il faut quand même être fort pour identifier un museau à travers la visière en T. « Si je m'attendais !» lançai-je au lascar en contrefaisant l'admiration. « Un champion du dedans ! Si j'avais su, je me serais montré plus poli l'autre jour. » « Il me semblait bien que nous nous étions déjà croisés, » me répondit le gaillard sur un ton un peu raide. « Croisé, le mot est faible. Heurté serait plus juste.
Mais cela n'a plus lieu d'être puisque désormais nous irons dans la même direction. Et pour vous avoir vu à l'œuvre sur le pré, je prends toute la faute sur moi.
Vous vous êtes donc affronté au cours du tournoi ?
S'enquit la baronne en manifestant un intérêt qui dissimulait parfaitement son inquiétude.
Je ne crois pas,
répondit Kéan à notre grand soulagement.
L'incident dont nous parlons remonte à quelques jours.
Vous savez bien, baronne, que je n'ai guère de disposition pour rompre les lances, badinai-je avec modestie.
Sur ce point, on ne saurait vous comparer avec le chevalier, répliqua-t-elle avec une condescendance chargée d'arrière-pensée.
Elle nous décocha un sourire plein d'aimable civilité dont j'admirais toute la duplicité.
Finalement, j'ai surestimé mon entre-gens, avoua-t-elle en affectant une déception gracieuse. Vous vous connaissiez déjà, et vous avez assez de courtoisie pour passer par-dessus le différend que vous avez eu. J'espère que vous saurez vous apprécier à votre juste mesure. Chacun de vous possède de rares qualités. En œuvrant de concert, vous nous rendrez d'éclatants services.
Madame, répondit Kéan, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude.
Vous avez toujours été pour moi d'un indéfectible soutien. Je ne saurais en dire autant de vous,
badina l'intrigante.
Mais vous allez bien vite effacer vos étourderies. Désormais, la clé du succès se trouve entre vos mains. Si votre ambassade met un terme aux querelles et favorise l'union de tous les partis contre l'invasion, votre renom brillera aux quatre coins de Bromel.
Je ne vous décevrai pas, assura le champion en laissant glisser son regard vers la jolie nièce.
Je l'espère bien, plaisanta la Brégor. Sans quoi je vous gronderai sans ménagement.
Elle fit un signe à son officier et à sa suite pour leur faire comprendre qu'elle était prête à partir.
Souhaitez-vous que nous vous escortions jusqu'à la sortie du comté ?
Demanda précipitamment Kéan.
La trêve est fragile, et il y a des soudards sans foi ni loi dans les deux camps. Comme c'est obligeant de votre part,
se récria la baronne.
En d'autres circonstances, avec quelle joie j'aurais accepté, mais cela vous détournerait trop longtemps de votre devoir. Le temps presse, votre démarche auprès de la dame que vous savez sauvera tout le duché et pas seulement quelques belles personnes. Nous devons donc sacrifier l'agrément de votre compagnie à ses raisons supérieures, chevalier. Mais partez le cœur léger. Le sénéchal Ochila et ses gendarmes veilleront sur ma sûreté et sur celle de ma chère Éloïse.
Alors adieu, mesdames, s'inclina le jeune chevalier sans masquer son émotion.
La divine tétrarchie vous garde. Gagnez au plus vite une solide place forte.
Adieu, mes seigneurs, répondit la baronne.
Vous emportez tous nos espoirs avec vous. Puissiez-vous avoir la main heureuse ?
Je surpris un regard ardent entre ce fripon de Kéan et la jolie Éloïse. Puis la litière se mit en marche et la portière de velours se referma sur les belles. Le chevalier suivit un bon moment des yeux le véhicule qui tanguait majestueusement au milieu des lances et des cavaliers. Je fus bien près de croire qu'il m'avait oublié. Ce fut peut-être le cas d'ailleurs. Il fallut que l'escorte de la baronne se fonde dans le pullulement de la multitude pour qu'il me redécouvre. En reportant son attention sur moi, il eut la mine du dormeur qui, arraché au palais de ses songes, se réveille dans un infâme gourbi.
« Eh bien, puisque plus rien ne nous retient ici, soupira-t-il, mettons-nous donc en route.
Que ne ferait-on pas pour ces dames ?»
Voilà qui est bien parlé, sire Benvenuto. La considération que vous leur témoignez m'incite à croire que nous allons nous entendre.
On ne saurait mieux dire, je bais d'admiration devant leur haute vertu.
Nous oublierons donc nos préventions pour mieux les servir.
Vous êtes vraiment trop bon. D'ailleurs, à ce sujet, je décrochai l'arbalète et le carquois de mon épaule. J'avais prévu un petit geste de gratitude pour le mentor qui m'introduirait là où nous allons. « Expliquai-je. Je ne me doutais pas que ce serait vous, mais les choses sont finalement bien faites, puisque cette babiole aidera également à effacer mes mauvaises manières. » Je lui tendis l'arme et le paquet de traits aussi cérémonieusement que s'il s'agissait d'un signe royaux. « Voici le dernier cri des arbalètes de la phalange tchoudalienne. fabrication exclusive des ateliers du quartier de l'Arsenal. Arc d'acier, étrier de chargement, crémaillère à manivelle démontable, système de détente à noix, arbrier à crosse ergonomique, avec cette merveille, vous alliez puissance et précision. Elle vous trouve un plastron à 450 pieds. Kéan eut l'air plus embarrassé que touché par le présent.
« Je ne sais pas si je peux accepter, »
s'excusa-t-il. « C'est un engin déloyal, dont l'honneur réprouve l'usage. » « Eh, c'est qu'il est d'autres loisirs que la guerre. Prenez cette arbalète comme la meilleure des armes de chasse. Une fois que vous l'aurez en main, vous abattrez Héron et Cygne à une distance prodigieuse. Les dames vous applaudiront en voyant avec quelle adresse vous faites mouche. Et puis, je m'étais dit que cela nous distrairait en chemin et que vos prises permettraient d'améliorer notre ordinaire.
Ma foi, présentée de la sorte, votre largesse dissipe mes scrupules. » Pardonnez ma légèreté, j'avais mal interprété votre geste, alors qu'il s'agit d'un cadeau fort courtois. J'espère que nous aurons l'occasion de lever du gibier pendant notre voyage. Je serai ravi de tirer quelques traits.
Et le tour fut joué. En acceptant mon cadeau, Ivorin de Kéan devint ma mule. Il transporterait pour moi cet ustensile louche, et pour peu qu'il se pique de tir au pigeon, ferait passer l'arme de guerre pour un innocent jouet. Je ne laissais rien paraître de la jubilation de l'avoir roulé en lui cédant la belle mécanique. Il faut dire qu'un détail me refroidit presque aussitôt. Alors qu'il prenait possession de l'arbalète, le regard de Kéan glissa de l'arbrier à ma main droite. Ce fut à peine l'affaire d'un instant, avant qu'il ne concentre à nouveau toute son attention à son présent, mais ce coup d'œil me fit un choc. Il avait repéré l'anneau à mon auriculaire. Voilà des semaines que plus personne n'y avait accordé d'importance. En fait, nul ne l'avait remarqué depuis mon départ de Tchoudalia. Et là-bas, les distingués collègues qui en connaissaient la signification faisaient généralement mine de ne pas le voir, par discrétion ou par trouille. Depuis mon arrivée dans le duché, quand j'avais testé des intrigants comme Ancelin Leclerc ou la charmante baronne de Brégor, j'avais bien compris qu'ils ignoraient tout de cet insigne. Cette ganache de Kéan, avec ses principes chevaleresques et sa bonne tête de dupe, était le tout premier à s'y être arrêté. J'en fus un brin secoué. Après tout, il grenouillait avec la Brégor qui venait de me recruter. Et si on était en train de me la faire à l'envers? Sans se donner la peine de tendre le câble de l'arc, Kéan mit en joue, probablement par civilité, afin de témoigner l'intérêt qu'il portait à ce cadeau. Tout en faisant mine d'apprécier sa posture, j'en profitais pour inspecter ses mains. Nouveau coup au cœur. Il portait un anneau au petit doigt. Il s'agissait d'un bijou plus précieux que le mien, en or pâle, formé d'un jonc si fin que je fus incapable de distinguer s'il était incisé d'une inscription. Chose bizarre, la bagouse lui habillait la harpe gauche. Peut-être était-il gaucher. Pendant le tournoi concentré sur vos macelles, je n'avais pas prêté attention au bras d'armes de Kéan. En tout cas, c'était la poigne droite qu'il venait de poser sur le levier de détente. Je me méprenais sans doute sur le sens de la bague. À moins qu'il n'ait été de ces arcans capables de tuer indifféremment avec l'une ou l'autre cuillère. Je ne doute pas que j'aurai l'usage de votre cadeau, reprit Kéan d'un ton plus amical. Le seigneur de Vert et sa dame sont de grands amateurs de chasse. Sans doute nous y conviront-ils. Même si la foule ne nous prêtait pas spécialement attention, je trouvais irréfléchi de la part du jeune gaillard d'évoquer explicitement notre destination au milieu de l'armée ducale. Était-il bête à manger du foin? Ou s'agissait-il d'une feinte? Mais ne nous attardons pas davantage, enchaîna-t-il. Rassemblons le reste de notre équipage et partons. Je vous suis, j'ai tout mon barda. Kéan eut l'air surpris. Mais, et vos valets? Et vos chevaux? S'enquit-il. Je balayai la question d'un revers de la main. Pour remplir la tâche qui nous incombe, je préfère voyager en toute discrétion. Mais il vous faut une monture. Je suis un solide marcheur. Et je veux passer incognito.
En fait, ça m'arrangera plutôt si on me prend pour votre larbin. » Le jeune paladin parut scandalisé par mes extravagances. « Pareille comédie, vous ferez des choix, j'en aurai honte pour vous, et pour moi aussi. Je n'ai certes qu'un écuyer, mais à l'avenir, tous mes gens seront toujours montés, sans compter qu'il nous faudra quelques jours pour gagner vert. Un piéton nous retarderait. » Haussant les épaules, il conclut « C'est sans importance. Je ne manque point de chevaux, je vous en céderai un pour le voyage. » Je ravalai le soupir qui me gonflait le buffet. Ce goût de la noblesse pour la monte. Aux yeux de ces rupins pérégrinés à pince, c'était comme sortir sans autre chose. Inacceptable. Sauf que mes fesses à moi ne prisaient guère la selle et que je montais comme un sac. Kéan allait me mépriser sur chaque arpent du chemin d'ici à Vert. Le canasson qu'il me prêterait m'aurait dans le naseau à peine aurais-je mis le pied à l'étrier et j'aurais l'entrejambe à vif quand j'arriverais à pied d'œuvre. Malgré tout, il aurait été mal avisé de ma part de refuser. Je n'allais quand même pas cracher mes poumons sur tout le trajet derrière des croupes équines. En plus, vu ce que j'avais à faire, mieux ne valait pas traîner. Des partisans de l'ex-duchesse songeaient sans doute à la rejoindre. Certains s'étaient peut-être déjà mis en route pour l'avertir de la capture de Blancandin. Plus le voyage durerait, plus nombreux serait l'entourage de la dame. Ivorin de Kéan me mena hors du chambardement qui avait été le camp du Cal. Son écuyer, un gaillard assez jeune mais presque aussi costaud que lui, nous attendait avec une petite écurie. Il y avait là une bête de bât, deux chevaux de monte et deux énormes destriers. Le chevalier ordonna à son larbin de lui sceller un destrier et me prêta son palefroid. Finalement, Kéan ne se révélait pas aussi tourte qu'il voulait paraître. Il avait parfaitement cerné le genre d'estradio que je faisais et se gardait bien de me confier une de ses cavales les plus chères et les plus ombrageuses. Il fallut donc monter en selle. Ce n'est pas tant le vertige qui me gêne que le fait que votre siège bouge. Pas forcément dans la direction où vous voulez aller. Sans compter que je n'arrive jamais à prendre le rythme du tape-cul. La chevauchée, pour moi, c'est la fessée permanente. Et encore, quand ce n'est pas un coup bas. En deux mots, à peine à califourchon, je me sentis aussi assuré qu'une corbeille de rave. Un coup d'œil sur mon assiette suffit à mes deux comparses. Ils mesurèrent d'emblée le poids du boulet qu'ils allaient traîner. Sans même avoir vidé les étriers, je dégringolais aussitôt de plusieurs étages dans leur estime. « La route est longue jusqu'à Vert ?» grognai-je en essayant de ne pas prendre un ton geignard. « Il nous faudra trois étapes en contournant les hautes terres d'Agurande. » Trois jours en selle, la punition allait être rude. J'arriverai sur place tellement moulu que je n'y serai plus bon à grand-chose. « Et si on ne contourne pas ?» « Je ne connais pas la route directe, » répondit Kéan. « De toute façon, elle m'a été fortement déconseillée. Elle traverse la seigneurie d'Ouchin. Les chemins y sont dangereux et mal entretenus. » Pour ma part, ça m'aurait plutôt arrangé de couper par chez l'ami Fitzgannon, à peu près le seul rupin de Bromel avec lequel j'avais réussi à m'entendre. Je m'abstins toutefois de proposer ma recommandation à Kéan. Vu la façon dont il avait démoli et dûment rançonné le seigneur d'Ouchin, je pressentais qu'il n'était pas très chaud pour aller toquer à son nuit. Il fallut donc suivre l'itinéraire décidé par le jeune paladin. De toute façon, il aurait pu bagnauder à plaisir sur le chemin des écoliers, que ça n'aurait pas changé grand-chose, vu que je ne connaissais rien au pays. J'avais certes à peu près en tête la route par laquelle l'ost du Cal était arrivé à Lindinas, mais nous n'en prenions pas la direction. Au cours de cette première matinée de voyage, ce fut d'ailleurs le cadet de mes soucis. Ma priorité, c'était de ne point vider les étriers au moindre nid de poule. La rosse prêtée par Kéan, habituée à la main d'un cavalier accompli, avait flairé le bisu mal assis. Je lui communiquais ma trouille, et elle se montrait nerveuse, ce qui amplifiait d'autant ma frousse et son effarouchement. Nous étions parfaitement accordés pour finir dans le fossé. Kéan chevauchait fort obligeamment à côté de moi avec un naturel qui redoublait mon humiliation. Il m'étourdissait d'un bavardage assez creux, vantant le destrier qu'il avait reçu du comte de Kimark
et qu'il montait pour faire le voyage. Il préférait épargner la selle à son bon contenson que l'écuyer menait par la bride. Il me racontait combien ce cheval de guerre s'était bien comporté au cours des 2 jours du tournoi. Tout en me servant ce caquetage hippique, le preux me gardait à l'œil et se tenait prêt à saisir ma cavale aux morts. Il m'en donna le nom, Amiette, en me louant sa douceur. Une douceur de bourrin mal débourré. Nous n'avions pas quitté le pré de Lindinas, qu'Amiette m'avait déjà tanné le séant. Pour agrémenter la promenade, les deux armées levaient le camp. En d'autres termes, selon l'usage que j'avais déjà pu constater à Carwell, elles se désagrégeaient en bandes et escouades qui partaient dans tous les sens sans respecter le moindre échelonnement. Il arrivait que 2 escadrons suivant le même chemin appartiennent en fait à Bromel et à Kimark. Quand on tombait sur une troupe, il était donc difficile de savoir de quel camp elle se réclamait. Certaines de ces compagnies n'en avaient pas une idée très claire elles-mêmes. Mercenaires toujours prêts à se vendre aux plus offrants, milices dont la charte communale se trouvait truffée d'exceptions et de dérogations, sans parler des nobliaux contraints à un double hommage par leurs fiefs éparpillés. Fort heureusement, le gros des forces du Cal prenait la direction de l'ouest vers l'estuaire de la Claye. L'armée de Kimark se divisait. Certains détachements partaient au nord-ouest pour renforcer la garnison de Neuvidine, d'autres vers le sud pour garnir les défenses de Mormark et patrouiller la vallée de la Claye. Kéan m'entraînait presque à l'opposé de ses mouvements de troupes, vers l'est du comté. Il m'annonça que nous ferions étape au soir à Tafarnin, un petit bourg au croisement des routes de Mormark, de Kerlund et de Ver. Passé midi, notre chemin se fit donc moins encombré. Kéan se disait d'ailleurs fort déçu de ne pas partir combattre les barbares. Une partie du banc de Blestance, commandée par Guingamore, le fils aîné du comte, marchait sur Vikingsberg, et le Rodomon brûlait de rejoindre l'armée de sa province. Malgré les sueurs froides que me donnait ma haridelle, je tirais sans peine les vers du nez au jeune preux. Pourquoi diable me faisait-il l'honneur de me convoyer s'il préférait décerveler des ouromans? Il ne se fit guère prier pour me raconter par le menu le sac d'embrouille où il s'était empêtré. Tout avait commencé par une histoire de femme. Comme quoi, qu'on soit né dans le ruisseau ou dans la soie, l'humaine condition est tristement prévisible. Ce béjaune de Kéan s'était entiché d'une jeune beauté, dont il eut la discrétion de ne pas me donner le nom, mais dont l'énumération des charmes et des grâces me fatigua rapidement les oreilles. Comme il eut aussi la sottise de me confier qu'elle était de la parenté d'Erambourg de Brégor, il ne me fut pas bien difficile de deviner de qui l'on parlait. En bref, et pour passer rapidement sur le couplet lyrique, le chevalier avait cru habile de proposer ses services à la tante pour se rapprocher de la nièce. Sous le sceau de la confidence, il me révéla que la baronne poursuivait d'une haine implacable le chevalier de Vaumacel. Le regard attiré par l'anneau qu'il portait au petit doigt, je ne pouvais m'empêcher de me demander si Kéan se payait ma tête, ou s'il était aussi cruche qu'il y paraissait. Ignorait-il vraiment que la dame m'avait recruté pour désinguer Vaumacel? En tout cas, la virago n'en était pas à son coup d'essai. Avant moi, elle avait déjà envoyé le preux Ivorin, aveuglé par la passion et l'ambition de s'illustrer. Sauf qu'après avoir jeté le gant à Vaumacel, il était tombé sur un os. Ce qui, soit dit en passant, me consolait un peu d'avoir bâclé le travail. Vaincu, rançonné et trop fauché pour racheter sa liberté, Kéan s'était constitué prisonnier sur parole. Et ce couillon, au lieu de s'asseoir sur son serment et de filer la première occasion, avait changé de camp pour épauler son vainqueur. Ainsi expliquait-il sa présence dans les rangs des chevaliers du dedans, contre les intérêts de la baronne qu'il avait mal servi et contre les forces de Belle-Estance qui s'étaient ralliées au camp du dehors. Mais lorsque le tournoi s'était transformé en guerre, l'imbécile s'était senti bourrelé de remords, d'autant plus que sa victoire sur Fitzganlon lui avait donné les moyens de racheter sa liberté. C'était alors que, pleine de mansuétude, la généreuse Erambourg lui avait suggéré une entreprise à même de restaurer sa réputation. Elle lui avait proposé de mener un émissaire secret auprès du seigneur de Vert, chez qui le chevalier était introduit grâce à son compagnonnage avec Blancandin, afin de négocier un accord amiable entre le duc et son ex-épouse. Grâce à cette entreprise pacificatrice, Kéan retrouverait du crédit auprès de la noblesse de Belle-Estance, à laquelle l'attachait son vassalage. Voilà ce qui nous valait notre bizarre attelage en direction du château de Vert. Son histoire me donna à réfléchir. C'était clairement celle d'un cave roulé dans la farine par la Brégor comme par vos macelles. La niaiserie du chien de garde qui allait innocemment introduire le loup dans la bergerie me paraissait trop belle pour être vraie. Certes, l'expression candide du jeune gaffre, comme son verbiage bien intentionné, respirait la sottise, et une sottise plutôt dangereuse, parce qu'il serait le premier à vouloir me fendre la couenne sitôt qu'il aurait compris ce que j'étais venu tramer à Vert. Même si ce n'était qu'un crétin, il faudrait donc me garder de lui. Encore fallait-il qu'il en soit un de crétin. D'accord, j'avais croisé suffisamment de fats et d'imbéciles dans la noblesse pour ranger Kéan dans la vaste société des cornichons bien nés, à ceci près que certains détails clochaient. D'abord, ces retournements d'allégeance qui faisaient qu'on ne savait plus très bien pour qui roulait le paladin. Et puis, cette confession, si rapidement déballée aux compagnons de hasard. Avant même d'avoir vidé le moindre godet, le chevalier s'était débraguetté devant moi comme si nous étions de vieux poteaux de beuverie. Or, je sais bien l'effet que ma gueule a sur les gens. Si je suis plutôt doué pour extorquer des confidences, ce n'est pas exactement sur ma bonne mine. Par-dessus tout, il y avait cette histoire de bague. Lorsque Kéan me recommandait de tenir la bride plutôt que de m'agripper à l'arçon, lorsqu'il me donnait des conseils à propos de la position de mes mains sur les rênes, il ne pouvait s'empêcher de reluquer ma pogne en douce. Puis, il reportait très vite son attention sur le chemin, comme si de rien n'était. Mais il ne parvenait pas complètement à voiler sa curiosité. À force, pour vérifier que je ne me faisais pas d'illusions, je finis par agiter ostensiblement la harpe. Je me grattais le nez ou je redressais mon chapeau. Et à chaque fois, je voyais bien que l'indiscret guignait mon anneau du coin de l'œil. Cette curiosité-là, c'était plus que louche. Je finis par zioter de façon appuyée sa propre bagouze. Il s'en rendit compte, et loin de s'en offusquer, me coula un sourire godiche plein de fatuité complice. « N'en parlons pas, » me glissa-t-il à mi-voix. « Attenter au secret serait péché contre la délicatesse. » Qu'est-ce qu'il entendait par là, le Godelureau? Voulait-il faire passer nos babioles pour des gages d'amour? Il avait l'air bien assez tarte pour le penser, mais quand même. C'était le premier Bromalois qui louchait ainsi sur mon anneau de commensalité. Était-il seulement possible qu'il soit de l'honorable société? Un obliot étranger? Un coureur de quintaine? Si jeune que le lait lui sortait encore par le nez. Bête comme ses pieds par-dessus le marché. Incroyable. Invraisemblable. Et pourtant je ne parvenais pas à me défaire complètement du soupçon. Un chevalier du duché. Quelle recrue de choix ce serait pour la guilde. Et ce couillon était sorti indemne de 2 jours de tournoi, après avoir roulé la cour ducale. Son ingénuité même finit par alimenter ma suspicion. Quoi de mieux que la stupidité pour maquiller la fourberie? Tout en tâchant de ménager mon entrejambe et de ne pas vider les étriers, j'essayais d'envisager l'option la plus saugrenue. Si Kéan appartenait à la guilde, pourquoi l'avait-on pendu à mes basques? Était-il de nos maîtres espions infiltrés dans la noblesse bromaloise? Était-ce pour sauver sa couverture qu'on m'avait caché que je voyageais avec un collègue? Mais la baronne de Brégor, si intrigante fut-elle, ne connaissait pas nos conventions. Et c'était pourtant elle qui m'avait dégoté ce guide. Avait-il grenouillé de son côté pour m'approcher? à supposer que ces extravagances aient pu contenir une once de vérité, je me retrouvais dans une position périlleuse. Quelqu'un au conseil muet avait-il décidé de me lever, de m'écailler, voire pire encore. Un confrère qui me tombait dessus à l'improviste appartenait forcément à une autre chapelle. Or, la compartimentation de la guilde permettait de vendre nos services à des commanditaires concurrents. S'il était autre chose qu'un couillon de paladin, pour qui marchait vraiment Kéan ? Me l'avait-on envoyé en soutien ? L'avait-on chargé de nettoyer le nettoyeur après le coup de torchon ? Ou bien, incapable de penser droit sur cette haridelle qui me cassait le joufflu, est-ce que j'étais tout bonnement en train de me monter un conte à dormir debout ? Inutile de sonder plus précisément Kéan. S'il n'était qu'un cave, il n'y comprendrait rien. S'il était affranchi, il se donnerait l'air de n'y rien comprendre. Et moi, j'aurais dévoilé bêtement mon jeu. Il fallait donc faire comme si, en espérant que je finirais par y voir un peu plus clair. En 3 jours de voyage, j'aurais peut-être des occasions. Mais je n'y croyais qu'à moitié. S'il appartenait vraiment à l'honorable société, Kéan ne se déboutonnerait que sur ce qu'il voudrait bien montrer. Une mauvaise surprise nous attendait au terme de notre premier jour de voyage. Le bourg de Tafarnin, où nous devions faire étape, occupait un fond de vallée. Il se pelotonnait dans le méandre d'une jolie rivière, probablement un affluent de la Claye, au débouché d'un modeste pont de pierre. Des jardins et des vergers en lanière rayonnaient autour des chaumières entourées d'une seconde couronne de lopins plus étendue, fermée de murets de pierres sèches, qui épousaient les pentes des coteaux. Ce tableau bucolique, caressé par la lumière du soir, aurait été des plus accueillants s'il n'en était monté de vilaines fumées noires. On s'y agitait fort. De loin, quantité de petites silhouettes se dispersaient à travers les potagers et les vignes. Certaines semblaient jouer au loup, d'autres à chat perché. Bizarrement, à cette heure vespérale, des rustres qui me paraissaient un peu trop casqués pour des pâtres sortaient les bêtes des étables au lieu de les y rentrer. Nous nous étions arrêtés sur une butte verdoyante, offrant un beau point de vue sur la fête. Une expression sévère se peignit sur le visage de Kéan. Il savait prendre un air tranchant qui s'accordait assez bien avec ses prouesses de tournoi. « Qu'est-ce que ceci ? » s'écria-t-il. « Le duc et le comte ont pourtant conclu une trêve. Ce sont peut-être des ouromans ?» envisagea son écuyer. Cela ne me parut guère crédible. Bien que nous soyons à bonne distance, il me semblait que certains des pillards portaient des cottes d'armes aux couleurs vives. Ces oripeaux appartenaient aux sergents et chevaliers d'un banc seigneurial plutôt qu'aux carles des clans. « Bribras, mon harnois !» ordonna le paladin d'un air sombre. L'initiative m'alarma aussitôt. Cet Olibrius ne comptait quand même pas entrer dans la danse. Il mit rapidement pied à terre et aida son valet d'armes à déballer ses pièces d'armure. J'en profitais pour descendre également de ma rosse en prenant un luxe de précaution. J'avais l'impression d'avoir passé la journée à califourchon sur un rondin. Je clopinais comme une putain après une semaine d'abattage. « Avez-vous de quoi vous équiper ?» me demanda le preux en se faisant lasser ses grèves. « J'ai un pourpoint de buffle et mon épée. J'avais plutôt prévu d'esquiver les ennuis. Dans ce cas, restez derrière moi. Je vous couvrirai. » Décidément, cette conversation prenait un tour déraisonnable. L'imbécile ne donnait pas l'impression de vouloir dévier de sa route. « Dites-moi, vous ne comptez quand même pas y aller ?» Question purement oratoire. Kéan s'empressa de me confirmer dans mes appréhensions. « Il faut bien que nous avancions !» me répondit-il. « Et puis, où diable voulez-vous que nous logions cette nuit ? En outre, c'est peut-être l'occasion de sauver quelques pauvres bougres. Vous comptez arrêter la sarabande à vous tout seul ? Nous sommes 3, il me semble. » « Ah oui, maintenant que vous le dites. Vu sous cet angle, tout devient possible. » avec une désagréable efficacité, l'écuyer achevait de sangler les cuissards. Il n'allait pas tarder à équiper la ventrière et la dossière de la cuirasse. « Vous savez, ce qui se passe là-bas n'est rien que de très ordinaire, » poursuivis-je. « Une troupe qui fourrage, c'est le train-train d'une campagne. Il ne devrait pas y avoir trop de casse, ils font juste des emplettes. Par contre, c'est souvent mal vu qu'un inconnu s'invite au banquet. Quand un chien ronge son os, mieux vaut ne pas le regarder de trop près. Un chien, ça se dresse, et quand il désobéit, on le châtie. Et donc vous croyez qu'on va châtier toute la meute, vous, moi et... Bribras, me rappela l'écuyer en me lançant un regard éloquent comme s'il approuvait mes réserves. Et Bribras, complétai-je. Sous le plastron qu'on était en train de lui ajuster, Kéan haussa les épaules. J'irai trouver le capitaine de ces marauds, lâcha-t-il avec aplomb. Je lui rappellerai ses devoirs, et au besoin, je lui demanderai raison. Et de quelle autorité vous réclamerez-vous? De celle que me confère l'ordre de chevalerie. Je dois avouer que je connus un instant de sidération. Cet hurluberlu croyait-il vraiment ce qu'il chantait? Ou jouait-il la comédie pour me donner le change? Sans doute aurait-il été instructif de lui laisser la bride sur le cou pour voir jusqu'où il aurait été capable d'aller. S'il avait fini par se raviser, cela m'aurait confirmé que j'avais affaire à un malin qui contrefaisait les idiots héroïques. Seulement voilà, si mes soupçons n'étaient pas fondés et qu'il n'avait rien à voir avec la guilde, cet insensé était tout à fait capable de nous jeter dans la gueule du loup. Et si jamais le capitaine de ces joyeux drilles ne veut pas entendre raison, il sera contraint de m'affronter. Le bon droit est de mon côté, cela me donnera la force de le vaincre. Ouais. Permettez-moi de vous parler net. J'en ai connu un paquet d'enseignes des phalanges. Si un kidam était venu leur chier dans les bottes pendant qu'ils ravitaillaient, ils auraient lâché les chiens sans ciller et accroché le moraliste au premier balcon venu. Les officiers de votre république sont des soudoyers de basse extraction. Les nôtres sont des prud'hommes attachés aux valeurs chevaleresques. Je n'en doute pas. Suffit de voir comment Claudas de Kimark a fait tirer ses arbalétriers en plein tournoi, ou comment le duc Ganelon a donné l'assaut contre le camp du dedans. L'argument eut l'air de déplaire à Kéan, mais ne le détourna en rien de son stupide projet. Il fallait donc essayer une approche différente. Admettons que le bon droit ne vous suffise pas et que vous preniez un mauvais coup. Que devient votre ambassade? Vous êtes le messager. Je ne suis que votre escorte. Vous vous passerez de ma compagnie pour vous rendre à Vert. Et si les rapineurs là-bas m'incluent dans votre querelle? L'ambassade pourrait fort bien terminer dans cette kermesse de village. Qu'en dira la baronne de Brégor? Vous m'avez confié que vous l'aviez déjà déçue. Croyez-vous qu'elle vous passera un nouvel échec? Cette fois, le trait fit mouche. Le jeune preux parut moins déterminé à défendre la gueuse et le pétrousquin. Je sais bien, ça manque un peu de panache de rester les bras croisés, convins-je d'un air arrangeant. Mais pensez au nombre de bourgades épargnées si nous parvenons à négocier un accord avec Odéarde. Il y aura celles qui échapperont à la discorde entre le duc et les admirateurs de la dame, et puis celles qui seront sauvées de la rapacité barbare par l'union des forces ducales. Et tout cela grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à votre seul mérite, parce que ce soir vous aurez fait l'effort de rester l'arme au pied. Un peu de fermeté, que diable! Il faut parfois sacrifier sa fierté à des raisons supérieures. Mais ces pauvres gens là-bas ont besoin d'assistance. Vous savez, la picorée militaire, c'est comme une infestation de poux. Ça vous tombe dessus en bande, ça suce le sang, c'est pénible, ça vous laisse minable, mais ça tue rarement son glaiseux, tant qu'il ne cherche pas à se rebiffer. Croyez-moi, vous leur rendrez service à ces pétzouilles en n'allant pas souffler sur les braises. Et le pont? Il faudra bien l'emprunter, c'est notre route. « Eh bien, il me semble qu'il est en pierre, il ne brûlera pas. Il s'envolera encore moins. Il sera toujours là demain. Par contre, dès qu'il n'y aura plus rien à faucher, croyez bien que nos étourneaux auront repris leur vol. »